Allô tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Je suis contente de vous retrouver. Je suis votre hôte, Eugénie Francoeur, coach ménopause et ex-journaliste. Mon rôle à moi, c'est de vous aider, mesdames, à bien vivre, ou du moins à mieux vivre, cette transition importante dans la vie d'une femme. Choisir de poser chaque jour de petits gestes pour prendre soin de soi, c'est probablement la meilleure des assurances santé que vous pouvez vous offrir. Prendre soin de sa santé à la ménopause, ça veut aussi dire de ralentir le processus du vieillissement. Donc, on a beaucoup de raisons de prendre soin de soi. Un des secrets dans la santé, c'est la constance. Bien manger chaque jour, même si ce n'est pas parfait. Bouger un peu chaque jour, même si vous avez juste 10 ou 15 minutes. Prioriser votre sommeil chaque soir, même si vous avez trop de choses à faire, puis même si votre liste de to-do n'est pas terminée. Ma passion à moi, c'est de fouiller et de trouver des solutions afin que vous dormiez mieux, que diminuer vos sautes d'humeur, vos trous de mémoire et les autres inconforts qui viennent avec la ménopause. Et, ben oui, il peut y en avoir beaucoup pour certaines femmes. Il n'y a rien de pire que d'avoir une grosse journée devant soi ou une grosse semaine après une mauvaise nuit. On se sent tout croche, on aurait juste envie de se rouler en petite boule et d'attendre que ça passe. Mon souhait, c'est que vous retrouviez ou conserviez l'énergie et l'enthousiasme de faire ce que vous aimez dans la vie. Comme vous voyez, mon travail de coach ménopause m'allume beaucoup. Et si vous pensez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas à me faire signe. Vous trouverez mes coordonnées dans les notes de l'épisode. Ma mission, c'est aussi de vous informer. Trop de femmes ne savent pas à quoi s'attendre à la ménopause, sont mal, peu ou pas renseignées sur cette période de vie. Beaucoup de femmes, et je l'entends souvent dans ma pratique en privé, restent surprises par l'arrivée de tous ces symptômes et surtout ne savent pas quoi faire avec tout ça. Malheureusement, la ménopause ne vient pas avec un mode d'emploi. Je suis là pour essayer de vous simplifier la vie et d'adoucir cette transition. Et mon travail se poursuit aussi dans mes balados. J'ai envie qu'ils vous fassent du bien. Je reçois des invités où je vous partage des informations afin que vous trouviez des réponses, des pistes, des solutions à ce que vous vivez. Et aujourd'hui, mon invitée est la docteure Evelyne Bourdieu-Varroy. Vous verrez, son enthousiasme est contagieux et elle vous donnera envie, à vous comme elle me l'a donné à moi, de sortir de votre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses afin que vous sentiez mieux dans votre corps. Docteur Bourdieu-Varroy est une sommité dans le domaine de l'alimentation cétogène au Québec et en Europe, ainsi que dans le renversement des maladies chroniques liées au style de vie. Docteur Bourdieu-Varroy nous parle des nombreux avantages, et vous verrez, il y en a beaucoup, du régime cétogène et du régime faible en glucides. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour les femmes en ménopause ou en préménopause? Elle nous parle aussi du jeûne intermittent, à quel point il peut soutenir notre santé et nous aider à atteindre nos objectifs. Docteur Bourdieu-Varroy nous explique comment et pourquoi la résistance à l'insuline et les livres en trop qui viennent avec grimpent avec l'arrivée de la ménopause. Vous allez voir, c'est limpide, c'est clair et simplement expliqué. Même si je baigne dans ce milieu-là depuis des années, j'ai l'impression que je comprends finalement les rouages de la résistance à l'insuline. Docteur Bourdieu-Varroy nous invite aussi à trouver son X alimentaire. J'adore cette expression, son X alimentaire. Ça nous oblige à mieux nous connaître et finalement à choisir ce qui nous fait du bien, ce qui est bon pour nous. Evelyne Bourdieu-Varroy est médecin de famille et aussi co-auteure de la série de best-sellers « Perdre du poids en mangeant du gras » ainsi que du grand livre du jeûne. Elle a été formée, entre autres, par le docteur Jason Fung, expert de renommée mondiale en matière de jeûne, et elle est l'une des rares médecins dans la province à être certifiée en médecine de l'obésité par l'American Board of Obesity Medicine. Elle donne régulièrement des conférences ici et ailleurs dans le monde. Elle a cofondé avec Sophie Roland le sommet virtuel de la santé métabolique et travaille actuellement avec elle à créer des programmes en ligne et hybrides de perte de poids et de dépendance alimentaire. Ensemble, elles animent le podcast « Sentez-vous mieux », excellent podcast que je recommande souvent à mes clientes. Dr. Bourdieu-Arroy travaille à la clinique CMIE, qui est une clinique privée hors RAMQ, où elle accepte toujours de nouveaux patients voulant améliorer leur santé métabolique. Vous trouverez toutes les références dont je fais mention dans les notes de l'épisode, ainsi que les façons de rejoindre Dr. Bourdieu-Arroy. Je vous rappelle que la discussion avec Dr. Bourdieu-Arroy est à titre informatif seulement. Pour un avis médical, consultez votre médecin ou autre professionnel de la santé. Bonne écoute et j'attends vos commentaires avec plaisir. Bonjour Évelyne, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, hey, ça me fait grand plaisir d'être là aujourd'hui.
Avant qu'on plonge dans notre sujet qui est le régime cétogène ou le low carb, high fat et le jeûne intermittent, moi, j'aime toujours un petit peu découvrir mes invités. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. J'ai appris récemment que toi, la médecine, c'était pas ta première carrière. Premier choix.
Non, effectivement, j'ai fait un double bac spécialisé en traduction anglais, français, espagnol et en rédaction professionnelle. Et j'ai commencé à travailler comme traductrice dans une compagnie pharmaceutique pendant quelques temps. Et je n'aimais pas vraiment... J'aime beaucoup la gymnastique de la linguistique, la traduction des langues. J'adore, ça me passionne. Je suis encore une amoureuse de la langue française. Et j'aime beaucoup les langues en général. Cela dit, j'aimais pas travailler devant un écran à taper sur mon clavier toute la journée, qui est grosso modo ce que fait un traducteur. J'avais vraiment l'impression que je ne faisais pas de différence. Puis là, tu vas me trouver vraiment quétaine, là, mais c'est ça pareil. J'avais le besoin, je ressentais le besoin de faire quelque chose de plus significatif, de plus différent, d'aider, d'aller vers les humains, d'aller vers les autres. Mais je savais pas quoi parce que moi, j'ai jamais pensé au domaine de la santé parce que j'étais pas bonne en maths et en sciences à l'école. Fait que donc, c'est pas pour moi. Tu sais, tout le monde sait que ça prend genre des A+, hein, pour devenir médecin, pour devenir un professionnel de la santé. Puis c'était pas moi, ça. Moi, j'étais la fille bonne dans les sciences humaines. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai tout vendu et je suis partie faire le tour du monde avec mon sac à dos pendant un an et demi. J'ai vraiment littéralement fait le tour du monde. Je suis allée sur tous les continents. J'ai beaucoup voyagé et je me suis dit que j'allais découvrir ma voie pendant ce voyage. Et non. À mon retour, je ne savais pas plus ce que je voulais faire de ma vie. J'ai dit, bon, ben, en attendant de trouver, je vais faire une maîtrise en linguistique française. Et cela m'a mené à commencer des études en orthophonie. Et là, je me suis dit, mais t'es la bonne idée, toi. J'aime les langues. J'aurais aimé être un professionnel de la santé, mais je suis pas bonne en sciences. Mais l'orthophoniste, c'est un peu le docteur des langues, du langage. Donc, j'ai été admise à la maîtrise en orthophonie à McGill. Puis, écoute, j'avais un sentiment dans mon cœur que j'étais pas au bon endroit, que c'était pas ça ma voix, c'était pas ça. J'entendais une voix qui me disait, bon, c'est pas vraiment ça, mais tu sais, c'était une intuition qu'il fallait que je me dirige vers la médecine. Mais tu sais, j'avais déjà 27 ans là à l'époque, mais l'appel était plus fort que la... C'était plus fort que tout. Alors, j'ai encore une fois tout lâché et je suis retournée au cégep faire des études en sciences. J'ai réussi mes cours.
Tu es retournée au cégep à 27 ans faire tes...
Oui, je t'assure que j'étais la matante du groupe, là. Je t'assure qu'il y avait une grosse différence d'âge entre moi et les autres. Mais c'est pas grave. Moi, eux autres, ils étaient là pour vivre leur fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Moi, j'étais là pour avoir des notes puis passer à autre chose. J'ai postulé en médecine et puis, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en médecine. C'est extrêmement contingenté, mais j'ai été admise à ma première demande et donc je suis partie pour Québec à l'Université Laval faire mes études en médecine. Et voilà, ça m'a pris 9 ans quand même tout faire ça. Donc, fin trentaine, j'ai fini mes études en médecine et j'ai commencé à pratiquer.
Ça s'appelle de la détermination, ça?
Oui. Oui, mais en même temps, quand... tu sais, quand tu le sais que tu es sur la bonne voie, puis tout te le confirme, puis tu es comme sur ton X, puis tu es en accord avec ce que tu fais, ben tu vas de l'avant. Il y a comme pas d'autre chose que ça, aller de l'avant. Puis ben, je te dirais pas que ça a été facile, là, même si je savais que j'étais au bon endroit, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. En fait, il y a plusieurs moments pendant ma formation que je pensais pas passer au travers, là, honnêtement. Mais voilà. Et donc, j'ai commencé à pratiquer en 2015 comme médecin de famille sur le tard.
OK. Et là, tu es arrivée assez rapidement, tu es connue assez rapidement pour ce que tu as créé, la clinique Reversa. Tu t'es beaucoup intéressée au régime cétogène, au low carb, high fat. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir, je ne sais pas si le mot spécialisé serait le bon, mais t'intéresser à ça et en faire ta pratique?
Bien, quand j'ai terminé mes études en médecine, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et pendant mon congé de maternité, bon, j'avais pris du poids, tu sais, du poids de stress, de fin d'études en médecine, de grossesse, de début de pratique, du poids de pas dormir, etc. Puis j'allaitais mon garçon, puis au lieu de, tu sais, il y a des femmes qui allaitent là, puis qui fondent à vue d'œil là, mais il y a une autre catégorie de femmes qui allaitent puis qui grossissent à vue d'œil parce que, tu sais, on dort pas, puis on a besoin d'énergie, puis on compense avec la nourriture. Puis moi, c'est un de mes mauvais mécanismes de compensation dans la vie sur lequel je travaille depuis que j'ai 11 ans, de pas aller vers la nourriture pour compenser. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui ont ce même combat, mais c'est
oh
ça.
Oui.
Des fois, on est bonne, puis des fois, ça marche moins bien notre affaire, mais on n'abandonne pas, on continue à lutter. Bref, j'étais dans cette situation où j'étais extrêmement fatiguée. Mon fils était un très mauvais dormeur. Mon Dieu, il s'est réveillé jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Il s'est réveillé aux 2 heures, là. 10 heures, minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Pour boire, parce qu'il y avait des cauchemars, pour changer. Ça a été vraiment l'enfer et ça a aussi été notre dernier enfant. Donc, il n'y en a pas de troisième. Il n'y en aura pas. Mais pendant cette période-là où j'étais extrêmement fatiguée, où j'étais en congé de maternité après avoir pratiqué comme médecin de famille pendant seulement quelques mois, une collègue médecin me parlait du livre Code Obésité de Dr. Jason Fung, qui est un néphrologue de Toronto, donc un spécialiste des reins. Code Obésité, c'est un excellent livre. Moi, ça a été mon livre. Écoute, le lumière qui a jailli, ça a été. Moi, dans ma vie, là, il y a le avant la lecture de ce livre-là et il y a le après, tu sais. Il y a des livres comme ça qui nous marquent,
oui,
hein, dans la vie.
Qui nous marquent à jamais. Ouais, non, puis c'est un excellent. C'est une Bible, c'est une référence, ce livre-là.
Oui, puis tu sais, quelqu'un qui nous écoute là, peut le lire ou l'avoir lu, puis dire « bof, moi, tu sais, j'ai trouvé ça plate », ou mon chum l'a lu, puis il dit « écoute, après la moitié, là, je suivais plus ». Mais moi, à ce moment-là, dans mon cheminement personnel et professionnel, ce livre-là est tombé à pic. Et ça a changé ma vie, puis ma perspective, ça m'a éblouie, allumée, puis en même temps, ça m'a profondément fâchée. Mais j'étais en colère à lire ce livre-là. Dans le livre, il parle de résistance à l'insuline, puis il parle de comment ça fonctionne à l'intérieur, la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, dont on va sûrement discuter aujourd'hui,
oui.
Comment ça fonctionne, le développement du prédiabète, diabète, et le fait que, contrairement à ce que j'ai appris à l'école, sur les bancs de la faculté de médecine, bien, le diabète n'est pas forcément une maladie chronique et progressive. C'est ce qu'on apprend, puis moi, j'ai terminé en 2015, j'ai lu ce livre-là en 2016, et je me suis dit, attends, là, si j'avais fait mon cours de médecine il y a 25 ans, OK, tu sais, mais je viens de... Mais je viens de finir mon cours de médecine et il n'y a rien dans ce livre-là qu'on m'a enseigné. Ça se peut comme pas, là. On m'a pas enseigné que le diabète de type 2, c'était potentiellement réversible. On m'a pas enseigné que l'insuline, la résistance à l'insuline, puis les ravages que ça fait à l'intérieur du corps. Voyons donc. Fait que ça m'a choqué pour ça, parce que je me suis dit, c'est une pièce maîtresse, ça, dans l'aide, dans la médecine familiale, la gestion des maladies chroniques liées au style de vie, c'est énorme. Mais en même temps, ça a allumé toutes sortes de lumières, j'ai mis toutes sortes de pièces de casse-tête ensemble. Puis ça a été tellement révélateur pour moi que j'ai écrit à Dr. Jason Fung, je lui ai dit, je veux que tu me formes à faire cette médecine-là pour que je sois capable d'offrir ça moi aussi puis que les gens y aient accès à cette option-là. C'est pas tout le monde qui veut gérer son diabète de type 2 ou ses maladies chroniques liées au style de vie avec les habitudes de vie.
Ben, y c'est pas... Mais il y en a.
Mais il y en a! Il y en a, mais ces gens-là, actuellement, moi, à l'époque, ils se faisaient très rarement offrir autre option que la traditionnelle approche pharmacocentrique. Tu sais, vous avez un diabète ou un prédiabète, voici des médicaments. Puis c'était ça. Alors que il y a toutes sortes d'options et je suis fondamentalement convaincue que les gens méritent de se faire expliquer comme il faut toutes les options possibles. Y compris celle de pas traiter, y compris les options chirurgicales, médicamenteuses, habitudes de vie et autres, et médecine complémentaire aussi, intégrative. Mais de se faire expliquer l'éventail des options avec les pour et les contre, puis après ça, de laisser les patients faire leur propre choix, puis après ça, les accompagner là-dedans. Ça devrait être ça notre rôle comme médecin de famille. Mais on dirait que pour toutes sortes de raisons, de plus en plus, la médecine est de plus en plus pharmacocentrique, de plus en plus axée sur la réponse pharmacologique. On donne des médicaments et de plus en plus de médicaments. Et on a de moins en moins de temps, malheureusement, à consacrer à chacun de nos patients, ce qui fait en sorte que c'est un peu une roue qui tourne, puis une spirale où on a moins l'occasion d'aller creuser à la racine des vrais problèmes. Bref, je suis allée voir Dr. Fung pendant une semaine de temps à sa clinique qui est fermée depuis, mais qui s'appelait à l'époque Intensive Dietary Management. Et c'était son bras droit, Megan Ramos, avec qui j'ai passé presque toute la semaine, en fait. Et ça m'a jeté à terre ce que j'ai vu dans cette clinique-là. Ça m'a complètement bouleversée. Jamais j'avais vu, dans mes 9 ans de formation, jamais j'avais vu des patients qui rentraient en souriant l'un à la suite de l'autre, quasiment en gambadant parfois, tu sais, des patients qui disaient un après l'autre, j'ai perdu 50 livres, j'ai perdu 80 livres, j'ai perdu 100 livres, j'avais de l'insuline, j'en ai plus, j'avais 5 médicaments, j'en ai plus, j'avais de la haute pression, j'en ai plus, je vais mieux. En fait, les patients, là, ils venaient pour dire à Megan puis à Dr. Fung à quel point il allait mieux.
les médecins doivent aimer ça, hein?
C'est extraordinaire. Pas juste ça, à toutes les cliniques, Dr. Fung déprescrivait des médicaments. Il disait aux patients, ah, vous allez tellement mieux, vos glycémies sont tellement bonnes, sont même trop basses, je vous enlève un médicament ou je vous baisse la dose d'un tel médicament, vous n'avez plus besoin d'un tel autre médicament. Le mec, il déprescrivait des médicaments.
Ça a l'air à te faire triper.
Ça me fait halluciner. J'ai jamais appris, même pas comment on fait pour déprescrire des médicaments, parce que tout le monde sait qu'avec les maladies chroniques liées au style de vie, c'est chronique et progressif. Donc, tu fais juste en rajouter davantage et gérer, en rajouter d'autres pour gérer les effets secondaires de tes premiers. Ça, c'est comme la norme. En enlever parce que ton patient va mieux avec sa maladie chronique, aïe, tu sais, c'était... Écoute, ça m'a jeté à terre. Je suis revenue de ce séjour-là, de cette semaine-là, complètement bouleversée, mais aussi totalement résolue à faire cette médecine-là, à l'offrir aussi au Québec et à donner cette option-là aux gens qui étaient intéressés. Ça, je me suis dit, c'est pas possible que ceci existe puis que ça ne soit pas connu et accessible.
J'aimerais ça que tu nous expliques justement ceci. Quand on parle de régime cétogène et quand on parle de low carb, high fat diet, est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, il y a des gens qui sont familiers avec ça, mais pas tout le monde. Alors, je te laisse aller.
OK. Alors, on va essayer de faire ça simple. Fait que si jamais c'est pas simple, tu me diras, OK? Quand on mange et quand on boit et que ça contient des calories, là, donc ce qui n'est pas de l'eau, du café noir ou du thé noir, là, quand on mange et on boit et que ça contient des calories, bien, ces calories-là, c'est de l'énergie qui est composée qu'on peut subdiviser en macronutriments. Donc, les trois principaux macronutriments.
Les protéines, les lipides... Et les glucides.
Voilà. Donc, les lipides, c'est tout ce qui est gras, la graisse, l'huile d'olive, le beurre. C'est des lipides. Ça fournit de l'énergie, c'est un carburant pour le corps. Les protéines, elles peuvent être d'origine végétale ou d'origine animale. Hein, par exemple, des lentilles, par exemple, du saumon, un steak de bœuf. Bon, ça, c'est des protéines. Puis, notre corps préfère... utiliser les protéines pour faire de la construction, de la rénovation, du remplacement cellulaire. Quand il y a le choix, c'est ce qu'il préfère faire. La troisième catégorie, les glucides, ben c'est tout ce qui n'est pas des lipides purs ou des protéines pures, ben ça va être des glucides ou ça va contenir des glucides. Donc on parle de fruits et légumes, on parle de céréales, de grains, on parle de sucre, évidemment, n'importe quel sucre. Puis là, on n'est pas en train de définir les bons sucres, les mauvais sucres ou les bons glucides, les mauvais glucides. Juste la grande famille des glucides, mais ça contient beaucoup, le monde végétal, en fait, incluant les sucres comme le sirop d'érable, le miel, le sirop d'agave, le sucre blanc de table, etc. Et ces trois macronutriments-là n'ont pas le même impact à l'intérieur du corps, sur le métabolisme. C'est-à-dire qu'ils font pas les mêmes affaires une fois qu'ils sont rendus. Tu sais, les glucides puis les lipides, c'est des carburants, mais même à ça, ces carburants-là ne fonctionnent pas de la même façon quand on les ingère. Et quand on ingère des glucides, par exemple, peu importe là, que ce soit un glucide qui pousse dans un bananier ou que ce soit un glucide qui pousse dans un dépanneur, quand on les digère, le corps les transforme, la digestion les transforme en molécules de glucose et de fructose. Et le fructose, ça c'est un sujet en soi, mais grosso modo, le fructose, il va pas vraiment dans la circulation sanguine parce que les cellules peuvent pas vraiment l'utiliser comme tel, comme carburant. Alors, c'est le glucose qui part dans la circulation sanguine et qui est comme un buffet à volonté qui se présente aux cellules et qui dit, tu sais, si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez en prendre, voici, il y a du glucose qui circule, qui est disponible pour vous. Pour que le glucose puisse entrer dans les cellules et fabriquer cette fameuse énergie, ben il faut l'hormone insuline. C'est une hormone qui est fabriquée par le pancréas à la demande. Quand on mange principalement des glucides, mais aussi un peu des protéines, mais quand on mange des glucides et qu'il y a des molécules en circulation dans le sang, ben là, le pancréas perçoit cela et relâche de l'insuline, qui elle aussi s'en va dans la circulation sanguine. Fait que là, tout ce beau monde-là tourne autour dans le sang en attendant qu'il y ait des cellules qui en aient besoin. Là, l'insuline, elle va voir les cellules, elle se fixe aux cellules sur un récepteur, on peut dire. C'est comme si c'était une clé qui rentre dans un verrou, elle débarre, elle déverrouille la porte, et là, il y a une porte qui s'ouvre et qui permet aux molécules de glucose de rentrer dans la cellule et de pouvoir être utilisées pour fabriquer de l'énergie. Donc, ça prend absolument, dans la majorité des cas, ça prend de l'insuline pour que les cellules puissent s'ouvrir et prendre le glucose. S'il n'y a pas d'insuline, et là, on est dans un cas, par exemple, de diabète de type 1. S'il n'y a pas d'insuline, bien là, le glucose, il va rouler à l'infini dans le sang, donc le taux de sucre va augmenter, le taux de sucre dans le sang, mais les cellules vont être affamées parce qu'elles ne sont pas capables de prendre le glucose qui circule. La porte est barrée, puis il n'y a pas de clé pour débarrer ces portes-là.
Comme c'est bien expliqué.
Merci. Jusque-là, tout va bien et tout ça est physiologique et normal et souhaitable. On veut que ça fonctionne comme ça. Hein? Avant l'invention de l'insuline exogène, les enfants qui avaient le diabète de type 1, ben, ils finissaient par mourir parce que le sucre n'y arrivait jamais à rentrer à l'intérieur de bien des cellules.
Juste préciser, l'insuline exogène, ça, c'est l'insuline qu'on va s'injecter.
Oui, c'est ça.
Celle qui est non produite par notre corps.
Voilà, quand on s'injecte de l'insuline, c'est de l'insuline exogène de l'extérieur, donc qui date de 1920-21 à peu près, là, commercialisée dans les années qui ont suivi après ça, puis qui ont révolutionné, dans le fond, les soins et évidemment la longévité des gens atteints de diabète de type 1. Puis, tu sais, à cette époque-là, c'était principalement des enfants, mais tu sais, de nos jours, il y a beaucoup d'adultes qui ont ce diagnostic-là à l'âge adulte. Bref. Donc, jusque-là, tout va bien. Le problème peut s'installer quand il y a beaucoup de glucides qui sont consommés, qui sont ingérés. Et
pain, pâte, pizza, patates, grains, fruits, tout ça, là.
Tout ça, tu sais, quand il y en a trop en quantité et quand il y en a trop en fréquence par rapport à notre seuil personnel, métabolique, individuel, par rapport à notre seuil à nous, quand on en consomme trop, bien là, il y a trop de molécules en circulation dans le sang. Fait que là, l'insuline, elle va voir toutes les cellules, puis elle dit, écoutez, là, les cellules, il faudrait faire votre part ici. Là, on ne peut pas garder du sucre en circulation comme ça. C'est toxique, hein, d'avoir un pic de sucre dans le sang, une hyperglycémie, c'est toxique pour le corps, ça crée des dommages à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Fait qu'on veut pas ça. Donc, quand il y a trop de sucre dans le sang, le pancréas, il produit de l'insuline. Il essaye de matcher pour s'assurer que tout réussit à rentrer dans les cellules. On fabrique l'énergie avec ça ou on fabrique du gras. Parce que quand il y a trop de sucre par rapport, qu'il y a trop de molécules de glucose en circulation par rapport à nos besoins énergétiques, bien, le corps transforme ça en gras puis il stocke ça dans les réserves pour un jour où on aura besoin de cette énergie-là. Tu sais, un jour de jeûne, un jour, une famine, une guerre, une disette, une sécheresse, hein, quelque chose dans l'évolution là, qui a fait en sorte que le corps a trouvé pertinent de fabriquer des réserves de graisse, un peu, mais pas trop. Donc, quand il y a beaucoup de molécules de glucose en termes de quantité et en termes de fréquence, bien là, l'insuline va constamment cogner sur les cellules pour leur dire « ouvre-toi, ouvre-toi, il y a du glucose, prends-en ». Mais les cellules, elles sont pleines. Elles ont tout ce dont elles ont besoin. Puis, il y a comme un… Elles se font tellement bombarder, en fait, qu'elles commencent à désactiver des récepteurs à leur surface. Donc, elles commencent à résister au message de l'insuline qui dit « ouvre-toi ».
D'où la résistance à l'insuline.
Oui, en fait, pour simplifier, il y a un petit bal, un petit jeu qui s'installe entre les cellules et le pancréas. Donc, les cellules commencent à ne pas bien répondre au message de l'insuline. Il reste des molécules en circulation de glucose dans la circulation que le corps n'aime pas. Fait que le pancréas, il sécrète encore plus d'insuline pour essayer de taper là-dessus, tu sais, puis essayer de gérer les choses. Puis là, les cellules, avec le temps, se disent « Mais là, regarde, un peu, là, c'est trop, là, j'en ai pas besoin. » Fait qu'elles résistent encore plus, elles désactivent encore plus de récepteurs et il reste des molécules. Donc, le pancréas renchérit, puis il en rajoute. Puis, plus il en rajoute de l'insuline, le pancréas, plus il rajoute de l'insuline, plus les cellules résistent parce qu'elles se font trop bombarder. Dans la nature, quand il y a trop d'un certain stimulus, bien, on se désensibilise à ça. C'est comme l'histoire du petit gars qui criait au loup.
Ouais.
Hein? Crie au loup, on répond. Crie encore au loup, on répond. Crie encore au loup, on commence à être tanné. Crie au loup, on répond plus. Mmh. Bien, c'est un peu la même chose qui se passe avec le métabolisme à l'intérieur du corps. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Parce que quand un corps est en hyperinsulinémie, donc il y a trop d'insuline en circulation, puis l'insuline, elle n'arrive pas à faire une bonne job. En fait, je dois dire, au début, l'hyperinsulinémie fait une bonne job. Au début, la glycémie, elle est sous contrôle. À force de sécréter une tonne d'insuline et de bombarder toutes les cellules, le corps réussit à rentrer son sucre un peu partout. Mais il est important de savoir que l'insuline, c'est entre autres choses l'hormone du stockage des graisses. Fait qu'à chaque fois qu'on en sécrète, le corps, il en utilise une partie pour faire de l'énergie, puis tout le reste, il met ça dans ses réserves. Parce qu'il se dit, il va sûrement y avoir un hiver, une famine, une guerre ou quelque chose. On est le fruit de l'évolution, hein. Ça fait pas longtemps qu'on a constamment accès à de la nourriture. Tu sais, notre génétique, elle a pas eu le mémo là, que ça allait être correct. Là. Pas besoin de mettre des réserves tant que ça. Là. Tu sais, tu peux t'arrêter. Là.
On ne manque pas de rien.
Ben, au Québec, la majorité d'entre nous, on est plutôt dans on est plus dans le surpoids que dans le sous-poids en général. Tu sais, on a accès quand même à de la nourriture, pas nécessairement de qualité, mais la nourriture de base pour ne pas mourir de faim, en général, au Québec, on y a quand même accès. Mais c'est ça, pas nécessairement de qualité. Fait qu'à chaque fois qu'on sécrète de l'insuline, on stocke des graisses. Et plus on en sécrète de l'insuline parce que les cellules sont résistantes, bien plus on a un fort signal de stockage des graisses. Mais pire que ça, plus on a de la résistance à l'insuline et de l'insuline en circulation, l'insuline, elle est inhibitrice de la lipolyse. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'insuline en circulation, on a énormément de difficultés à brûler de la graisse. Donc, on a de la misère à brûler nos propres réserves de graisse et on a de la misère à brûler la graisse qu'on a consommée avec les aliments qu'on vient de manger, par exemple. Ça, c'est très problématique parce que quelqu'un qui est en surpoids puis qui veut perdre du poids, mais qui est extrêmement résistant à l'insuline, là, peut faire d'énormes efforts de bouger, de gérer son stress, de gérer son sommeil, de faire attention à son alimentation, de compter ses points, etc. Il y a plusieurs régimes qui sont basés sur les points ou l'hypocalorie ou des choses comme ça. Mais la résistance à l'insuline, c'est une barrière parce que elle bloque, elle inhibe, elle bloque le brûlage des graisses. Ça, c'est hormonal. Fait que c'est très difficile quand on est dans cet état d'hyperinsulinémie, de résistance à l'insuline. C'est extrêmement difficile. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile de brûler de ces graisses. La meilleure stratégie dans ce temps-là, c'est vraiment de s'attaquer d'abord et avant tout à la résistance à l'insuline.
Donc, c'est réversible, la résistance à l'insuline. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une sentence à mort, là, à vie.
Non, effectivement, c'est pas une sentence à vie. On n'est pas condamné à être de plus en plus résistant à l'insuline puis de plus en plus en état d'hyperinsulinémie. Au contraire, ça se renverse. Puis autre chose, pire que ça, c'est que, en fait, la résistance à l'insuline, elle s'installe pendant des années, même des décennies. Puis parce que son rôle, c'est de garder la glycémie dans les normes, bien pendant que l'insuline, elle commence à augmenter puis que la résistance s'installe, les glycémies sont belles, les taux de sucre dans le sang. Fait quand on va voir son médecin puis quand on a des prises de sang, par exemple, bien tout a l'air beau. Parce qu'au Québec, on n'a pas l'habitude de vérifier le taux d'insuline dans le sang. Fait qu'on ne sait pas si quelqu'un est en train de progresser vers l'hyperinsulinémie, la résistance.
Avoir une glycémie normale, mais l'insuline qui serait anormale.
Oui, non seulement tu peux, mais c'est ce qu'on voit dans la majorité des patients que je vois à ma clinique. Là, peu importe la raison pour laquelle ils consultent, ils ont déjà une résistance à l'insuline en installation. Mais des fois, elle est petite. Puis elle est facilement réversible, puis des fois, elle est plus sévère, puis elle nécessite plus d'actions concrètes. Mais si tu imagines ça comme un continuum, à un moment donné, les glycémies, là, commencent à plus être gérables. Fait que là, le taux de glycémie monte, le taux de sucre dans le sang commence à monter. Ça monte tranquillement pas vite sur des années. Mais tu sais, ta moyenne des trois derniers mois, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, avant, était à 5. Puis là, t'es rendu à 5,5. Puis là, t'es rendu à 5,7. Puis là, t'es encore des normes, là. T'es pas diabétique. Selon certains barèmes, t'es même pas encore pré-diabétique. Selon les miens, tu l'es. Mais bon, selon certains barèmes...
Pré-diabétique, c'est combien? C'est à combien de barèmes? Le tien est l'officiel.
Le mien, c'est à partir de 5,6 jusqu'à 6,4 d'hémoglobine glyquée, donc la moyenne du taux de sucre dans le sang des trois derniers mois. Mais il y a de plus en plus de laboratoires ou de normes qui disent que non, c'est à partir de 6,0 jusqu'à 6,4, puis 6,5 et plus, là, on est dans le diabète. Mais tu sais, si t'es à 6,4, 6,3... T'es pas moins malade qu'un diabétique, t'es juste pas dans les critères diagnostiques parce qu'il fallait tracer la ligne en quelque part à un moment donné. Puis c'est ça le danger, c'est quand on voit ces glycémies qui commencent à augmenter mais qui sont pas encore dans le range, dans la fourchette diabétique, on est clairement en hyperinsulinémie puis en résistance à l'insuline. Il y a déjà plein de dommages qui ont lieu à l'intérieur du corps, puis malheureusement, on se le fait pas nécessairement dire de comment renverser ça puis comment prévenir la survenue d'un diabète. Mais si rien n'est fait puis les habitudes de vie changent pas puis l'alimentation continue, puis l'alimentation, c'est pas le seul facteur, évidemment, dans la résistance à l'insuline. Je peux te parler des autres après. Mais si on fait rien puis on change pas nos habitudes de vie, bien, on va continuer, c'est un continuum, on va continuer à progresser, puis éventuellement, notre hémoglobine glyquée va être à 6,3, 6,4, 6,6, et voilà, on a atteint le critère, et là, on est diagnostiqué diabétique de type 2, et ça, au Québec, actuellement, c'est un diagnostic indélébile, il est dans votre dossier pour toujours. Fait que d'un point de vue assurance, assurance vie, assurance voyage, aller aux États-Unis, etc., là, c'est problématique d'avoir ça. Donc, il faut pas se rendre là, mais de toute façon, vous voulez pas vous rendre là d'un point de vue assurance, mais vous voulez pas vous rendre là non plus d'un point de vue santé, parce que c'est le pire plan de vie de vieillir avec le diabète de type 2. Là, ça, écoute, 80% des diabétiques de type 2 meurent du cœur, développent des maladies cardiovasculaires.
80% des diabètes meurent du cœur. Hey, c'est énorme.
C'est énorme, toutes les conséquences. Il y a un paquet de cancers qui sont associés à la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, le diabète de type 2. Il y a un paquet de cancers. Il y a la démence aussi. Certaines démences sont associées à ça. Il y a toutes sortes de maladies, la stéatose hépatique, la goutte, l'hypertension artérielle, le syndrome des ovaires polykystiques, les multiples acrocordons qu'on a qui sont pas très graves, c'est juste esthétique, là, mais ça, c'est un signe de résistance à l'insuline.
Les micro quoi?
Les acrocordons, tu sais, les tétines là, qu'on peut avoir, là. Ah, ouais, quand on a plein, ouais, c'est ça, c'est un signe.
De résistance à l'insuline, OK.
Ah. Eh bien, 2-3, c'est correct, on a tout ça, là, mais tu sais, t'en as plein dans le cou, dans les aisselles, dans les... qui poussent de plus en plus, comme s'il y avait un champ de fraises, là, d'acrocordons, de tétines qui est brune, qui pousse sur le corps, là, ça, c'est un signe de résistance à l'insuline. Mais bon, ça, c'est esthétique à la rigueur, là, mais tu sais, il y a des maladies beaucoup plus sérieuses qui sont associées, justement, de manière associative ou de manière causale avec la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie, l'obésité et le diabète de type 2. Donc, c'est vraiment le pire plan de match de vie pour la suite des choses, pour les prochaines décennies, d'avoir ce genre de maladie chronique qui est évitable, qui est prévenable, mais que très souvent réversible. Pas toujours. Des fois, les cas sont trop avancés. Le pancréas, il a tout donné, il est brûlé. Mais c'est pas toujours réversible, mais c'est toujours améliorable, ça, c'est sûr.
Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là. Et c'est là qu'entre en ligne, c'est là qu'entre en scène le régime cétogène ou le low carb, où oui. On va prioriser les graisses, les bons gras, les protéines de qualité et les glucides dans une moindre quantité. Oui. Avant de parler de graisse et de protéines, j'aimerais ça que tu nous parles des glucides. Tous les glucides ne sont pas égaux.
Oui, tout à fait. Donc, les glucides, on se rappelle quand on parle de fruits et légumes, de tout ce qui est céréales, grains, de pain, pâtes, patates, riz. Il y en a aussi dans certains produits laitiers, comme dans le yogourt, par exemple. Pas le yogourt sucré, là. Ça, c'est sûr qu'il y en a, là. Mais dans le yogourt nature, dans certains produits laitiers, il y a des glucides. Dans les noix, il y a des protéines, des lipides et des glucides. Dans les graines aussi, bon, graines de sésame, graines de citrouille, etc., dans le fond. Puis, évidemment, dans tout ce qui est sucre évident. Donc, toute cette grande catégorie-là, c'est la catégorie des glucides. Évidemment, tous ne sont pas égaux en termes de qualité, en termes de complexité. Hein, il y a des glucides rapides que, c'est, aussitôt qu'on les ingère, le taux de sucre dans le sang augmente, il n'y a pas de fibres, c'est digéré et absorbé extrêmement rapidement. Puis, tu as des glucides, tu sais, mettons... un bol de riz blanc versus un bol de riz brun. Un bol de riz blanc minute rice qui t'a pris une minute au micro-ondes versus du riz brun que t'as fait cuire pendant, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait cuire du riz brun. Là.
40 minutes.
Genre, mais on sait qu'on n'a pas les mêmes glucides. Hein? On sait que la digestion ne sera pas pareille. Ça va être plus lent, ça va être plus ralenti. L'absorption des molécules de glucose, elle est ralentie par les fibres. Les aliments entiers contiennent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Fait qu'évidemment que quelque chose qui est peu transformé, qui arrive directement de la nature versus quelque chose qui est ultra transformé, qui habite dans un dépanneur, on parle pas des mêmes effets à l'intérieur du corps. Fait que c'est bien de distinguer ça. Fait qu'en santé métabolique, on peut pas s'arrêter là. On peut pas s'arrêter à se dire, ben moi, je mange des glucides, mais que de bonne qualité. Il faut aller au-delà de ça. Oui, il faut manger des glucides de bonne qualité. Il faut laisser faire tout ce qui est transformé, raffiné, ultra transformé. Ça, là, c'est bon pour personne, jamais. Peu importe l'alimentation qu'on préfère ou qu'on privilégie, c'est sûr que les aliments transformés, raffinés, ultra transformés, avec plein d'ingrédients, une longue liste d'ingrédients et surtout une longue durée de vie sur les tablettes, ça, c'est bon pour personne. Et tout le monde bénéficie d'éliminer ces aliments-là le maximum dans la vie en général. Mais au-delà de ce débat-là, manger beaucoup de glucides, même s'ils sont de très bonne qualité, que ce sont des bons glucides, pas ou peu transformé, ça peut être problématique si la quantité totale dépasse notre seuil de tolérance métabolique personnelle.
Donc, comment on fait pour la trouver, notre tolérance métabolique personnelle?
La première des choses, quand on se pose cette question, il faut s'ouvrir l'esprit au fait que peut-être qu'on pense qu'on mange vraiment santé, parce que ça, je l'entends souvent en clinique. Les gens viennent me consulter et me disent « Mais moi, docteur, je mange vraiment santé. Je mange sain, je mange super bien. » Oui, je suis d'accord.
J'entends la même chose en coaching tout le temps.
Oui, puis C'est super, parce que c'est bien d'avoir un intérêt vers ça, mais il faut que les résultats matchent les efforts. Sinon, c'est plate un peu, tu sais. Fait quelqu'un qui me dit « je mange vraiment bien » puis qu'il y a toutes sortes de problèmes de santé, ben, tu sais, de nature, énergie, douleur, de problèmes digestifs, problèmes de rage de bouffe, problèmes de sommeil, etc. Ben, on peut se... Puis là, ça, c'est même sans regarder, avant même de regarder les résultats de prise de sang métabolique, tu peux te dire, il y a peut-être quelque chose qui matche pas entre ce que la personne mange et ce que ça donne dans son corps. Entre autres choses, quand on mange vraiment... pour son seuil métabolique, ben on a un poids santé qui se maintient tout seul. Puis on a la satiété entre les repas et ça n'a pas besoin d'être un combat. Tu sais, manger ou pas manger n'est pas un combat de chaque instant, entre autres choses. Donc, si vous êtes en surpoids puis que malgré que vous mangez vraiment bien, vraiment santé, puis que vous faites de l'exercice, vous n'arrivez pas à perdre du poids, puis au contraire, vous en prenez du poids, mais ça fait partie des choses à regarder, des facteurs qui pourraient faire en sorte que vous êtes dans cette situation-là, mais ça pourrait être que vous avez dépassé, vous dépassez votre seuil de tolérance de glucides par jour. Parce que si vous mangez beaucoup de glucides, même s'ils sont bons, même s'ils sont entiers, même s'ils sont santé, même si... Écoute, je dis à mes patients, si vous mangez des grains qui ont été récoltés par des moines tibétains un soir de pleine lune en accord avec le cycle de Gaïa, pas grave, ça se transforme pareil en molécules de glucose dans votre sang, puis ça va vous faire sécréter pareil de l'insuline. Si vous êtes déjà en hyperinsulinémie ou en résistance à l'insuline, cette insuline-là va envoyer le signal à votre cerveau de stocker des graisses. L'insuline, c'est l'hormone maîtresse du stockage des graisses et en plus, elle inhibe la lipolyse. Donc, elle interdit au corps de brûler les graisses. Voilà. Elle fait d'autres choses aussi. L'insuline, elle dit aux reins de retenir l'eau, retenir le sel. Fait quand on mange beaucoup de glucides, bien souvent, on se lève le matin, on a les doigts enflés, par exemple, les cheveux enflés en fin de journée, ça peut être ça. Mais quand c'est chronique, qu'on a trop d'insuline dans le corps, bien ça peut faire monter la pression artérielle. De manière chronique, qu'on va traiter avec des médicaments en médecine familiale, puis avec raison, parce que c'est un des principaux facteurs de maladie cardiovasculaire, c'est l'hypertension mal contrôlée. Mais l'hypertension, c'est une des choses pour lesquelles je déprescris le plus souvent des médicaments, parce que quand on arrête d'avoir de l'hyperinsulinémie, bien la pression habituellement, pas toujours, mais habituellement, elle se normalise. Donc, pour répondre à ta question, si on n'a pas accès à des prises de sang métaboliques, tu sais, vérifier le taux d'insuline, vérifier d'autres paramètres ou d'autres facteurs, bien, il faut voir si est-ce que notre alimentation qui est bien santé, est-ce qu'elle est très riche en glucides et est-ce qu'on a des symptômes peut-être d'hyperinsulinémie, de résistance à l'insuline? Est-ce qu'on grossit facilement mais on a de la misère à perdre du poids? Est-ce qu'on est fatigué après les repas? Hein? À chaque repas, l'après-midi, on cogne des clous devant notre écran. Est-ce qu'on a plein de tétines, d'acrocordons? Est-ce qu'on a des douleurs un peu bises un peu partout? Bon, ça peut être la périménopause qui fait ça aussi ou les fluctuations de progestérone entre autres, mais ça peut aussi être parce que vous consommez trop de sucre par rapport à ce que votre corps est capable de tolérer. Quelqu'un qui a une forme de pomme aussi, si on prend du poids sur la bédaine par opposition aux hanches, aux cuisses chez les femmes, la forme de pomme, elle est plus typiquement résistante à l'insuline que la forme de poire. Et c'est ce qu'on voit hein, en périménopause, ménopause, même des femmes très minces prennent du poids sur le ventre. Mais on sait que la périménopause, ménopause, c'est un état qui augmente naturellement la résistance à l'insuline. Donc, puis la résistance à l'insuline, ben ça a tendance à vouloir stocker des graisses au niveau du ventre, entre autres choses. Si votre médecin vous a déjà fait passer une écho pour X, Y raison, ou une résonance magnétique ou un scan, puis on vous a dit stéatose hépatique légère, modérée ou sévère, donc foie gras, ben ça aussi, ça c'est une des caractéristiques typiques qu'on voit en clinique chez pratiquement tout le monde. Si vous avez une résistance à l'insuline, le plus probable, vous allez avoir une stéatose hépatique. Et vice-versa, parce que les deux entrent dans un cercle vicieux ensemble.
OK. Dans le concret du concret, ça veut dire quoi? Bon, là, moi, une grande partie de ma clientèle, c'est des femmes en ménopause et en péri-pré-ménopause. Ça veut dire quoi? Bon, on pense qu'on mange bien, on se rend compte que finalement, on a trop de glucides dans notre assiette. par où on commence? On met ça, on augmente de combien les gras, puis on diminue de combien les glucides, puis les protéines là-dedans?
Oui, en fait, la première chose à faire, selon moi, surtout chez les femmes, c'est d'augmenter les protéines. Les protéines, là, les femmes en général, ils en mangent pas assez. On aime moins ça, on est moins porté à ça. Tu sais, le gros steak, là, ça, c'est masculin, là. Tu sais, nous autres, on aime le sandwich aux tomates avec une coupe de tranches de. Ouais, une coupe de tranches de dinde à sandwich, là. Mais tu sais, les protéines, là, ça se convertit par la digestion en acides aminés. Ce sont les matériaux de construction rénovation. Donc, ça participe au maintien de la masse musculaire. Et la masse musculaire, elle est hyper importante chez tout le monde, mais chez la femme en périménopause, en particulier, hein. Premièrement, la masse musculaire, elle détermine le métabolisme basal. Combien de calories vous dépensez à juste ouvrir les yeux puis respirer, là? Ça, c'est votre métabolisme basal. Mais plus vous avez de muscles, plus votre métabolisme basal est augmenté, donc plus vous brûlez des calories à écouter la télé, par exemple. Puis moins vous en avez, ben moins vous pouvez manger de calories sans grossir. La masse musculaire aussi, c'est elle qui va tirer sur la masse osseuse puis qui va lui dire de rester solide, alors qu'on sait que chez les femmes sont très sujettes à faire de l'ostéoporose. Et la masse musculaire, ben c'est ça qui permet de bien vieillir. C'est des REER dans la banque. C'est ça qui permet d'être autonome, d'être pleine de vitalité, de transporter soi-même ses sacs d'épicerie, monter des marches, même quand on est rendu à 92 ans puis on habite dans notre maison. Et c'est ce qu'on vise, tout le monde, honnêtement. Oui. Là, qui, au Québec, post-pandémie, pense que d'aller habiter dans un CHSLD pour les 10 dernières années de sa vie est un bon plan, tu sais? C'est pas un bon plan,
non,
là.
Vraiment pas. Je confirme que c'est vraiment pas ce qu'on veut. Et on a la possibilité de choisir autre chose.
Exactement. Mais pour ça, faut nourrir ses muscles et les entraîner. Donc, faut faire des exercices qui,
de musculation
pour augmenter sa masse musculaire. Mais faut soutenir ça avec des protéines adéquates. Puis ça adonne que les protéines, c'est ce qui fait sécréter le plus d'hormones de satiété. Dans le top, là, des macronutriments les plus rassasiants, c'est les protéines. Donc, plus
avant
vous mangez.
Ah oui.
Oui, tout à fait. Donc, justement, si vous avez tout le temps faim, vous mangez des grosses portions, vous avez de la misère à bien sentir vos signaux de faim et de satiété, la première chose à faire, c'est d'augmenter vos apports en protéines, en bonnes protéines de qualité, évidemment. Et pour faire ça très simple, là, honnêtement, là, surtout si vous avez du poids à perdre, le plus simple à faire sans se casser la tête, là, c'est de composer ces assiettes d'une grosse portion de protéines, puis ensuite des légumes qui poussent au-dessus de la terre. Puis au besoin, rajouter une petite motte de beurre, une petite touche d'olive avec un peu de sel, puis de composer ces repas comme ça, et non, comme on se fait dire depuis plusieurs décennies, de mettre un quart de grains céréales, légumes, fruits et légumes. Tu sais, fruits et légumes, là, sont pas sur le même pied d'égalité. Les fruits, là, c'est naturel, mais ça contient beaucoup plus de sucre. Puis si ça dépasse votre seuil, en particulier de fructose qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui, bien, ça se peut que manger beaucoup de fruits, ça soit pas optimal pour vous. Mangez plus beaucoup de légumes. Vous allez aller chercher vos vitamines, vos minéraux, vos fibres dans les légumes. Fait que prenez des légumes qui poussent au-dessus de la terre.
Pourquoi ceux qui poussent en haut de la terre? Pourquoi pas les betteraves, les patates sucrées, les autres?
Les oui, radis. Les radis, c'est différent, mais tu sais, pour faire ça simple, grosso modo, les tubercules, en général, c'est les réserves énergétiques des plantes, donc ça contient beaucoup de sucre. C'est pas du sucre-sucre, là, mais quand on va le digérer, ça va devenir des molécules de glucose et ça va se comporter pareil. Tu sais, les molécules de glucose, là, ils ont pas une petite étiquette qui dit « Moi, je proviens d'un aliment naturel, donc je suis une molécule gentille. » « Ah, non, moi, je proviens d'un Joe Louis, alors je suis une molécule de glucose méchante. » Il n'y a pas ça dans le corps. Une molécule de glucose, c'est une molécule de glucose. Ça va générer une réponse insulinique. Donc, les aliments qui poussent en dessous de la terre, en général, ont tendance à être plus riches en sucre. Mais bon, il y a des exceptions, comme justement le radis. Mais pour quelqu'un qui veut faire ça ben simple, là, pis ça, toutes ces informations-là sont quand même très faciles à trouver. Mais pour faire ça simple, une grosse portion de protéines, des légumes.
Végétal, qui poussent... animal?
Végétal, il faut faire attention parce que les protéines végétales, en général, à part le soya et le tempeh et tout ça, là, sinon les autres, comme les légumineuses, ça contient quand même une bonne quantité de glucides. Et si vous êtes, par exemple, diabétique de type 2, bien, ces glucides-là, même si c'est des bons glucides gentils, même si c'est des légumineuses, il y a plein de fibres, puis même si ça fait pas trop bouger votre taux de sucre dans le sang parce que c'est absorbé lentement, la quantité totale de molécules de glucose va quand même vous faire sécréter beaucoup d'insuline. C'est juste que votre courbe glycémique va pas vous le dire. Ça va être une grosse courbe glycémique au lieu de faire un pic pointu. Mais la quantité totale de molécules de glucose en circulation, bien, elle va générer une réponse insulinique. Vous allez sécréter plus d'insuline. Je suis pas du tout contre les protéines végétales, mais il faut faire attention quand on est sur le continuum de la résistance à l'insuline, puis qu'on est diabétique, par exemple, ou qu'on est en énorme surpoids, par exemple, et qu'on est très résistant à l'insuline, puis il faut s'attaquer à la résistance à l'insuline si on veut espérer perdre du poids. Bien, il faut faire attention à ces protéines végétales aussi. Okay. Donc, protéines végétales, légumes, un petit peu de gras. Presque toutes les protéines contiennent du gras de toute façon. Pour quelqu'un qui est en processus de perte de poids, ça peut être suffisant, ce qui est contenu là-dedans. Et évidemment, comme tu l'as dit, combiner ça avec des exercices de poids et haltères pour augmenter sa masse musculaire, c'est très gagnant. Surtout si on perd du poids après ça, on se retrouve avec un peu trop d'excès de peau, on se retrouve avec ce qu'on veut vraiment, là, c'est pas perdre du poids. Ce qu'on veut dans la vie, c'est perdre du gras et prendre du muscle. C'est ça qu'on veut, ça, c'est la composition corporelle, puis c'est ça qui va être la santé, la vitalité, la fonctionnalité, c'est ça qui va nous rendre bien et bon et capable de faire tout ce qu'on veut faire jusqu'à la fin de nos jours, tu sais, pour les activités de la vie quotidienne, puis tout ce qui nous rend autonome.
Et plus encore les voyages, les projets et autres. OK.
Oui!
Je tiens beaucoup de perdre du gras et de prendre du muscle. Juste avant de changer de sujet, les noix et les graines, tu les mets où là-dedans?
Les noix et les graines, ça dépend des gens. Quelques noix, par exemple, qui accompagnent un repas, mettons sur une salade ou quelque chose comme ça, ça peut être tout à fait indiqué. Il y a un peu de lipides, il y a un peu de protéines, il y a un peu de glucides là-dedans. Bon, mais tu sais, quelqu'un qui a dans son garde-manger des noix d'acajou rôties, salées, grillées. Oui, puis tu sais, là, ça, c'est très, très goûteux, puis qui en mange parce que c'est bon et non parce que ça fait partie d'un repas, qui en mange comme collation, qui s'en prend une poignée à chaque fois qu'il va dans la cuisine faire de quoi. Mais c'est de l'énergie en excès, puis ça compte. Même si c'est des bons aliments, même si c'est des aliments qui contiennent un paquet de bonnes choses, ça peut être trop par rapport aux besoins. Puis c'est surtout la mécanique de manger par plaisir, puis de manger pas dans le moment présent, puis manger de manière un peu inconsciente ou de manger sans considérer ses signaux de faim, de satiété. C'est ça qui est problématique aussi. Fait que les noix, c'est bien, mais souvent chez quelqu'un qui adopte l'alimentation cétogène, qui a une belle perte de poids, tout se passe bien, puis après quelques mois, revient nous voir, puis dit « Hey, ça fait 4 semaines que j'ai pas perdu de poids du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plateau. » Mais quand on analyse la situation, puis qu'on regarde, tu sais, des journaux alimentaires, puis qu'on fait le tour, on fait un certain travail de détective, la personne, elle nous dit, habituellement, la personne nous dit « J'ai rien changé, puis là, ça marchait, puis là, ça marche plus. » Au début, on était comme « Ah, il y a peut-être un seuil à partir de, tu sais, à un certain moment que ça marche plus dans le corps. » Ben non, non. L'expérience clinique de plus de 2000 patients nous a montré que quand les gens faisaient quelque chose qui marchait, plus soudainement ça marche plus, ils ont toujours changé de quoi, mais dans leur tête, ils ont trouvé que c'était bénin, c'était tellement un petit changement, ça compte même pas. Mais souvent, ils font un petit changement ici, ils font un petit changement là. Puis là, tu sais, quand ce que tu fais marche, tu penses que tu as de la marge de manœuvre, fait que des fois, tu peux... Bon, fait que, bref, la plupart des gens qui ont un plateau, si c'est pas tout le monde ou presque, ils ont changé trop de petites affaires qui cumulativement ont freiné leurs efforts d'amélioration des glycémies puis de renversement puis de perte de poids. Donc, et les noix, c'est des grands coupables parce que la plupart des gens mangent des noix de manière hédonique. Ils mangent des noix comme collation alors que les collations, c'est contre-productif de manger des collations. Si tu manges suffisamment de protéines et de lipides à ton repas, tu devrais être capable de te rendre très facilement au prochain repas. Tu devrais même être capable de jeûner au besoin. Donc, si tu as envie de grignoter dans l'après-midi, c'est soit que tu n'avais pas assez de protéines dans ton repas précédent, soit que tu grignotes pas parce que tu as faim, pour d'autres raisons. Puis ça, faut aller creuser ça, parce que ça, c'est important de comprendre pourquoi on mange quand on mange pas par besoin physiologique. Les noix et les produits laitiers, c'est des grands coupables d'abus ou de consommation hédonique, disons, qui freinent. C'est des bons aliments. Il y a plein de bonnes choses dans les noix, dans les produits laitiers, dans les graines, mais ça dépend comment c'est utilisé puis pourquoi c'est consommé.
Dans ton expérience, est-ce que tu as vu des contre-indications? Là, je parle vraiment des femmes en ménopause et en préménopause. Par exemple, j'ai déjà entendu que si les femmes ont de l'hypothyroïdie, on a besoin de plus de glucides, transformer le T4 en T3. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications à ta connaissance?
Pour des femmes en périménopause, ménopause, en bonne santé, qui n'ont pas des troubles génétiques, il y a des mutations génétiques qui font qu'on n'est pas capable d'utiliser les lipides comme carburant ou des choses comme ça, mais ces gens-là se connaissent parce que c'est depuis la tendre enfance qu'ils ont été diagnostiqués. Si on n'est pas non plus dans un contexte d'anorexie où on veut être encore plus maigre, utiliser l'alimentation cétogène pour perdre encore plus de poids, sinon, j'ai vraiment pas vu de contre-indications significatives. Au contraire, tu sais, la thyroïde, l'hypothyroïdie, ça peut être une maladie auto-immune. Et dans ce contexte-là, retirer la bouffe ultra transformée, les sucres, puis diminuer la résistance à l'insuline, ça ne peut qu'être bénéfique. Je n'ai jamais complètement cessé la médication pour des gens qui avaient de l'hypothyroïdie qui nous consultaient, mais je l'ai souvent ajustée à la baisse. Fait que moi, c'est plus le contraire que j'ai vu, que la thyroïde se stabilise, qu'elle s'améliore. Cela dit, la thyroïde, qu'on mange normal ou qu'on soit dans une démarche de perte de poids ou qu'on soit dans une démarche de changement d'alimentation, la thyroïde, des fois, elle fait des petits pics de folie. Fait que des fois, quand on fait des prises de sang, puis on attrape un débalancement, puis là, ben on recontrôle 8 semaines plus tard, puis tout est rentré dans l'ordre. Fait qu'il y a aussi qu'il faut avoir une... faut comprendre que la thyroïde n'est pas toujours au beau fixe. Puis des fois, quand on fait des gros changements dans notre vie, ben la thyroïde, pendant un certain temps, elle fait des pics de folie, puis après ça, elle se calme, puis elle se replace. N'importe quelle perte de poids aussi peut entraîner des débalancements au niveau de la glande thyroïde à court terme, mais aussi à moyen, long terme, parce que souvent le synthroïde, bien, il est souvent, mais pas toujours, il est proportionnel au poids de la personne. Fait que, bon, quelqu'un qui commence à s'entraîner énormément peut avoir des débalancements à la thyroïde aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire ça, mais est-ce que c'est une contre-indication? Absolument pas.
Mettons, il y a pas de contre-indication. Est-ce que maintenant, cette façon de manger-là est optimale pour tout le monde? La femme qui n'a pas de poids à perdre, qui est en bonne santé, qui n'a pas de gros problèmes de santé, mais qui arrive quand même à la ménopause, est-ce que c'est nécessaire d'aller là, souhaitable et optimale?
Il faudrait distinguer l'alimentation faible en glucides en général de l'alimentation cétogène. L'alimentation faible en glucides, on parle d'à peu près 100 grammes et moins de glucides nets par jour. Les glucides nets, c'est quand on prend le total des glucides et on soustrait les fibres.
Les fibres,
oui. Oui, ça nous donne le total net. Donc, faible en glucides, on parle de 100 et moins. Tandis que cétogène, on parle de 20 et moins. Et quand on est en alimentation cétogène, on a la volonté, le désir de produire des corps cétoniques. Donc, un des buts recherchés d'avoir 20 grammes et moins de glucides par jour, c'est de faire en sorte que le corps fabrique des corps cétoniques comme carburant. Il y a certaines indications thérapeutiques pour lesquels on voudrait des corps cétoniques. Il y a des gens qui se sentent mieux quand ils ont des corps cétoniques en circulation. Par exemple, des gens qui font beaucoup d'anxiété. En clinique, on voit que quand ils atteignent un certain taux de cétose nutritionnelle, ces personnes-là, leur anxiété est beaucoup abaissée. Il y a beaucoup de recherches qui se fait sur l'alimentation cétogène. D'ailleurs, en janvier, je vais à un congrès de plusieurs jours aux États-Unis qui n'est dédié que à toutes les applications thérapeutiques possible de l'alimentation cétogène. Donc, il y a vraiment un côté thérapeutique qui peut ne pas être nécessaire si vous n'avez pas besoin de ça ou si vous, ce que vous cherchez, c'est la prévention. On sait que les corps cétoniques sont des anti-inflammatoires. Fait quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation, beaucoup de douleurs chroniques, par exemple, sa protéine C-réactive, qui est un marqueur d'inflammation non spécifique, quand elle est élevée, puis on ne sait pas pourquoi, qui se lève le matin, qui a mal partout tout le temps, fibromyalgie, ce genre de choses-là, mais ça peut être intéressant d'essayer d'avoir un certain taux de cétose nutritionnelle puis de voir si ça aide. Et en clinique, là, en termes, par exemple, en matière de douleurs chroniques, puis je sais que tu vas avoir des invités qui vont dont une rhumatologue, hein, un jour, qui va te parler que de ça. Mais en clinique, ça, c'est une des choses qui m'a le plus surprise personnellement. Je m'attendais à avoir des améliorations au niveau du diabète puis de la prise de poids, de la perte de poids, par exemple. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'améliorations au niveau de la douleur chronique. Tellement que pendant plusieurs mois, on prenait vraiment des notes, des observations, des données cliniques là-dessus. Puis j'ai même fait une présentation dans un congrès international sur justement la réponse à la douleur là, de l'alimentation cétogène, pas faiblement glucide, mais vraiment cétogène. Impressionnant à ce niveau-là. Si on n'a pas de visée thérapeutique particulière, mais l'alimentation faible en glucides à 100 grammes et moins, c'est bien. Puis, je pense, moi, que tout le monde devrait se poser la question, est-ce que je mange trop de glucides? Est-ce que j'atteins mon poids santé? Est-ce que tous mes paramètres de santé métabolique sont bons? Si oui, j'ai un équilibre probable entre mon style de vie puis mon alimentation. Dans ce cas-là, si tout va vraiment bien, ça veut dire que vous êtes sur votre X alimentaire métabolique. Pas besoin de changer ça, pas besoin de dire « Ah non, tu manges moins de glucides parce que c'est moi qui le dis. » Non. Moi, ce que je trouve, c'est en clinique, c'est que les gens en méga bonne santé, d'abord, ils viennent pas trop me voir. Fait que déjà là, j'ai un billet, là, tu sais, mais la plupart des gens qui viennent me voir, la très grande majorité des gens qui viennent me voir, ils ont pas une bonne santé métabolique. Puis ça, c'est la population en général, là. Donc oui, ces gens-là, je pense, moi, que tout le monde qui a pas une santé métabolique optimale, a grand intérêt à diminuer ses apports en glucides. Puis là, tu sais, quelqu'un qui suit le guide alimentaire canadien, là, juste pour donner une idée, là, peut facilement tourner autour de 200 à 600 grammes de glucides par jour. C'est énorme! L'être humain a jamais mangé autant de glucides dans toute l'histoire de l'évolution à partir des hommes et des femmes des cavernes. Notre corps est pas toujours capable de gérer cette montagne de molécules de glucose dans la circulation. D'ailleurs, il n'y en a pas d'hormones de satiété, il n'y a pas de frein naturel à l'ingestion de sucre, de glucides. Hein? Tu peux aller au buffet chinois à volonté, là, puis tu manges une montagne de côtelettes de porc. Là. Après un certain temps, ton corps va dire « c'est assez les côtelettes de porc, si j'en vois une autre, je vais avoir la nausée, c'est sûr. » Puis là, il y a quelqu'un qui dit « il faut que tu ailles goûter à cette crème glacée-là, c'est la meilleure au monde, j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. » Ah, soudainement, il y a de la place pour ça. Là. Tu sais que tu as comme un estomac de réserve qui s'ouvre soudainement, puis il y a de la place, mais il n'y a pas de place pour une autre chope de porc quand même que je te parie 20$ que tu n'es pas capable de la manger.
On dit,
hein?
On dit souvent que pas besoin d'avoir faim de manger du dessert. Hein?
Bien, c'est ça, mais il n'y a pas de frein physiologique dans le corps qui dit « c'est assez le sucre ». Tandis que les protéines, on a des freins. Les lipides, on a des freins. Puis la distension de l'estomac, on a aussi des signaux mécaniques qui disent au cerveau, c'est assez, là, on a assez. Mais il n'y a pas de frein pour le sucre parce que ça n'a jamais été un problème dans l'évolution de l'être humain. On n'a jamais eu accès à tellement de sucre que c'était dangereux pour notre santé puis que l'évolution a cru bon de nous mettre des freins à l'intérieur. Puis en plus, tu sais, ça s'en va allumer le circuit de la récompense, qui est un autre sujet en soi.
Oui, un autre sujet, dopamine, oui. Et circuit de récompense. Certes.
Oui.
Hey, je vois le temps passer, Evelyne, c'est vraiment fascinant. Mais avant de te laisser partir, il faut que tu nous parles quelques instants du jeûne intermittent. Jeûne et jeûne intermittent pour femmes en ménopause et en préménopause toujours. Qu'est-ce qu'on vise et qu'est-ce qui est souhaitable?
Oui, c'est une bonne question. Écoute, quand Sophie Roland et moi, on faisait nos recherches pour écrire le grand livre du jeûne, en fait, on nous posait souvent la question, oui, puis les femmes, elles, oui, puis la ménopause, elles, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a une approche différente à apporter? Puis honnêtement, bon, il y a de la science sur le jeûne, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas des tonnes et des tonnes pour dire qu'ils ont testé toutes les populations, puis ils ont fait des essais randomisés contrôlés. Puis on est sûr de notre shot dans telle affaire. Avec le jeûne, c'est plus difficile que de faire des études avec un groupe à qui on donne une pilule, puis un groupe à qui on donne une pilule qui est vide, mais qui a l'air d'être la même, tu sais, un placebo. Ouais. Avec le jeûne, on peut pas faire le même genre d'études, fait qu'il y a tout le temps toutes sortes de facteurs confondants. Nous, dans nos recherches, on n'a pas trouvé tant de choses différentes chez la femme. Outre le fait qu'on sait que la périménopause, ménopause, c'est un moment où le corps de la femme a décidé que ça serait donc ben une bonne idée d'être encore plus résistant à l'insuline qu'avant, tu sais. Ah, ben, t'es, oui, la périménopause, ménopause, le corps, là, il y a toutes sortes de bonnes idées, hein?
Oui, non, tout à fait, je confirme. J'en entends et j'en vis plusieurs versions, oui.
Oui, effectivement. Fait que, une des choses, un des outils thérapeutiques à la disposition de tous, de toutes, justement, pour contrer les effets de la résistance à l'insuline, c'est le jeûne, qu'il soit intermittent ou prolongé. Fait que quand les gens parlent de jeûne intermittent, la plupart des gens veulent dire sauter le petit déjeuner. C'est pas tout à fait un état physiologique de jeûne, mais bon, pour les besoins de la cause, on peut appeler ça comme ça si on veut. Donc, sauter le petit déjeuner et manger dans une fenêtre restreinte. Donc, on appelle ça du 18-6 ou du 16-8, par exemple, c'est-à-dire qu'après la dernière bouchée du souper, on ne mange plus rien. Toute la nuit, on ne mange pas, on jeûne. L'insuline descend. Quand l'insuline descend dans le sang, la porte s'ouvre, on est capable de faire de la lipolyse, on est capable de brûler des réserves de graisse. Puis c'est avec ces réserves-là qu'on va nourrir notre corps pendant qu'on est en jeûne. Donc, c'est super, hein? Le foie, il est capable d'aller puiser dans toutes ses réserves puis de convertir tout ça en molécules de glucose. Fait qu'on n'en manque jamais. Ça fait pas des hypoglycémies. Évidemment, si vous avez le diabète de type 2, vous devez en discuter avec votre professionnel de la santé parce que vos médicaments pourraient faire baisser votre glycémie trop basse. Ça pourrait être dangereux. Mais pour quelqu'un qui n'est pas diabétique de type 2 ou 1 et qui ne prend pas des médicaments hypoglycémiants ou de l'insuline exogène en injection, il n'y a pas de danger de se retrouver en hypoglycémie parce que c'est la job du foie de s'assurer qu'il y a toujours de l'énergie en circulation, puis la fabrique à partir de ses réserves, puis on veut ça. Alors, on mange pas, c'est l'heure du petit déjeuner, on mange pas, on peut prendre un café ou deux, on peut mettre de la crème ou pas, c'est pas grave ça. Surtout si on jeûne d'un point de vue santé métabolique, c'est pas grave si on met une petite touche de crème dans son café, moi c'est ce que je fais. Je déteste le café noir, je pense que la vie est trop courte, ça vaut pas la peine de la vivre si c'est pour être obligé de boire du café noir. Et là, on va jusqu'à 11h, midi, 1h, et là, on mange. On mange un repas, puis on arrête de manger. Puis ensuite, on soupe, puis on arrête de manger. Et on mange rien entre le lunch puis le souper. On mange rien entre les deux.
On s'en tient à deux repas.
On s'en tient à deux repas. Ça, c'est ce que les gens appellent le jeûne intermittent, dans le fond. Chez la femme ménopausée, je te donne une astuce là, que tu connais déjà. La femme ménopausée qui a bien de la misère à perdre du poids, là, une des astuces qu'elle peut essayer, c'est de prendre le petit déjeuner et prendre le lunch. Et là, de jeûner. Donc, on a un avantage métabolique, un avantage pour le poids aussi, à sauter le souper. C'est dur à faire souvent dans un contexte social, tu sais, la famille, le conjoint, tout le monde veut manger, puis ils trouvent ça bizarre que tu manges pas, puis ça inquiète parce qu'ils comprennent pas ça, le jeûne. Fait que socialement, logistiquement, c'est plus dur à faire, mais d'un point de vue métabolique, il y a plus de bénéfices à sauter le souper qu'à sauter le petit déjeuner à calories égales. Okay, fait que si tu manges le même nombre de calories, là, que tu manges tôt le matin ou que tu manges plus tard le soir, tu n'as pas le même impact. Bon, mais on fait ce qu'on peut, là. Il faut que ça fonctionne avec notre vraie vie parce que
notre
si ça fonctionne.
Voilà,
si ça ne fonctionne pas dans ta réalité, bien, tu vas lâcher. Puis si tu lâches, bien, tu n'as rien gagné. Fait que faut s'adapter. Tu sais, des fois, il ne faut pas chercher l'optimal, il faut chercher le pas pire. Tu sais?
Le winner puis le réaliste. Parce que, c'est
ça.
Mieux d'en faire un bout qui marche que de ne pas en faire pantoute.
C'est ouais. Ça. Et voilà. Ouais. Fait que ça, c'est le jeûne intermittent. Ça nous permet de faire baisser l'insulinémie. Puis ce qu'on veut, c'est enclencher justement la lipolyse et tout ça, puis renverser la résistance à l'insuline. Fait que ça, c'est une chose qu'on peut faire chaque jour, tous les jours. C'est pas un problème. Maintenant, si on veut sauter plus de repas, donc on peut sauter le deuxième repas de la journée. Et donc, mettons qu'on va de souper à souper, bien là, on parle d'un 24 heures qui s'appelle souvent en anglais OMAD, One Meal a Day. Mm-hmm. Les 24 heures, on peut en faire souvent, mais on ne peut pas en faire chaque jour, tous les jours, non-stop, pendant des semaines et des semaines, parce que là, on va tomber en hypocalorie, puis on va ralentir le métabolisme basal. Donc, avec les jeûnes de 24 heures et plus, on les veut ponctuels, ici et là, de manière imprévisible. Le corps, il ne comprend pas que vous faites un 24 heures mardi, jeudi. Le corps, il comprend que vous faites un 24 heures chaque jour, tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Là, il dit, ah, elle vient de réduire mes apports en énergie, je vais réduire mes dépenses. Ça, c'est la réduction du métabolisme basal. Que le jeûne ne fait pas, à moins qu'on soit réellement en hypocalorie. Sinon, le jeûne, ça a été démontré qu'en fait, ça augmente le métabolisme basal. Ça ralentit pas le métabolisme, ça l'augmente. Puis, ça se comprend. tu sais, du point de vue évolutif, là, t'es une femme des cavernes, là, t'as pas mangé depuis 2 semaines, là. Quand tu te réveilles le matin, ton corps, il veut que t'aies de l'énergie pour aller chasser, sortir de ta grotte puis aller chasser. Si t'étais tout amorphe, avec un métabolisme tout ralenti puis plus de muscles, là, ben, tu resterais couché dans ta grotte puis tu mourrais de faim, tu sais. Puis tu nourrirais pas tes enfants. Fait que ça, l'évolution, elle a pas gagné dans ce temps-là. Fait que c'est un état légèrement adrénergique. C'est un état d'énergie. Il y a un petit peu plus de cortisol, d'adrénaline quand on jeûne pour nous donner l'énergie d'aller trouver de la nourriture, tu sais, d'aller chasser, de sortir de la grotte. Fait que il y a beaucoup de mythes qui entourent le jeûne, évidemment, mais c'est un excellent outil. Puis quelqu'un qui a beaucoup de résistance à l'insuline, ben pourrait choisir d'utiliser le jeûne comme outil thérapeutique pour renverser sa résistance à l'insuline. Donc c'est un excellent outil, je l'utilise très très fréquemment avec mes patients-patientes et avec moi-même aussi. Moi le jeûne, ça fait partie de ma vie maintenant depuis que je sais ce que je sais sur le jeûne, ça fait partie de ma vie régulière.
Ouais, un grand merci, Evelyne. J'aurais pu continuer comme ça encore pendant longtemps, longtemps, longtemps. J'ai encore plein de questions, mais ça fait déjà plus qu'une heure et quart qu'on jase ensemble. Alors, je vais te laisser aller. Mais avant de te laisser aller, les gens qui veulent en savoir plus sur ton fabuleux travail, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver?
Ah ben écoute, j'ai été partie en Asie pendant quelques années et là je suis de retour à pratiquer comme médecin de famille. Je suis à la clinique CMIE de Saint-Bruno de Montarville et c'est une clinique qui est hors AMQ, mais j'ai toujours de la place pour des nouveaux patients qui veulent me consulter en médecine métabolique, en médecine de l'obésité, donc en perte de poids, et je fais aussi de l'hormonothérapie à cette clinique. Donc on peut
Je vais mettre le lien. Tu as un podcast aussi, puis tu as un site web.
Oui, j'ai un podcast qui s'appelle « Sentez-vous mieux » avec Sophie Roland. Donc, à chaque semaine, on discute d'un des piliers de la santé métabolique et on donne une astuce pratique à la fin de chaque épisode pour aider les gens à atteindre leur poids santé et une bonne santé métabolique. Donc, c'est « Sentez-vous mieux », c'est sur toutes les plateformes là, qu'on peut trouver.
Je vais mettre le lien aussi dans les notes.
Oui. Et ceux qui s'intéressent au jeûne, justement, vous pouvez vous procurer le grand livre du jeûne là, qu'on a écrit il y a en pleine pandémie, là, qui est très référencé, qui a beaucoup d'exemples, qui a des recettes de bouillon, d'aide au jeûne, qui explique les mythes, qui donne beaucoup d'informations précieuses. Donc, c'est un livre qui se lit quand même assez bien puis qui est facile à trouver. Donc, si ça vous intéresse, il est disponible.
Hey, un grand merci, Evelyne. Vraiment super apprécié. Puis, ben, à la prochaine.
C'est moi qui te remercie.
J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et que ces propos vous ont fait du bien. Si c'est le cas, vous pouvez faire suivre à vos amis ou à vos proches. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ne rien manquer de ce que je mets en ligne, vous pouvez vous abonner à mon blog eugeniefrancoeur.com ou encore vous inscrire sur Spotify, Apple Music ou votre plateforme préférée. Et si vous sentez que vous avez besoin d'une coach santé pour optimiser votre vitalité et votre bien-être et croquer encore plus dans votre vie, vous pouvez me contacter au 514-913-1947 ou encore à eugenie.francoeur@gmail.com. Je vous remercie et à bientôt.